La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Edgar Poe, devenu Edgar Allan Poe, après qu'il ait été adopté par un riche commerçant du nom de John Allan, a traîné durant des décennies une légende peu flatteuse d'alcoolique et de dépravé. Il faut dire que son exécuteur testamentaire n'avait pas ménagé ses efforts pour faire prospérer cette image. L'ex-révérend Griswold, qui avait rédigé, à la mort de l'écrivain, une nécrologie infamante et qui était devenu son exécuteur testamentaire, comme nous l'a raconté lundi Isabelle Vieville-Desgeorges au cours de notre émission biographique. Hier, c'est Henri Justin qui est venu à ce micro pour présenter quelques grands axes de compréhension de l'œuvre de Poe et notamment son choix de la prose plutôt que de la poésie. Enfin, nous terminerons demain notre panorama en compagnie de Jean-Pierre Nogrette qui parlera plus particulièrement du double assassinat dans la rue Morgue ainsi que des aventures d'Arthur Gordon Pym. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler notamment de la manière dont Poe a été introduit en France par Baudelaire, mais pas seulement par lui, nous sommes en compagnie de Thierry Gilibeuf qui vient de faire paraître aux éditions Phébus le premier tome des nouvelles intégrales de Poe qu'il a retraduites avec Christian Garcin. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'ai à écrire l'histoire d'un de ces illustres malheureux, trop riche de poésie et de passion, qui est venu après tant d'autres faire en ce bas monde le rude apprentissage du génie chez les âmes inférieures. Lamentable tragédie que la vie de Poe. Sa mort, dénouement horrible dont l'horreur est accrue par la trivialité. De tous les documents que j'ai lus, est résultée pour moi la conviction que les États-Unis ne furent pour Poe qu'une vaste prison qu'il parcourait avec l'agitation fiévreuse d'un être fait pour respirer dans un monde plus aromal qu'une grande barbarie éclairée au gaz, et que la vie intérieure, spirituelle, de poète ou même d'ivrogne, n'était qu'un effort perpétuel pour échapper à l'influence de cette atmosphère antipathique.
Bonjour Thierry Gilibeuf.
Bonjour.
Ce portrait que Baudelaire fait de Poe, qu'on vient d'entendre, en homme alcoolique et génial, mais incompris par un pays trop matérialiste, on sent qu'il est inspiré justement de son exécuteur testamentaire et de la petite nécrologie qu'il avait fait de lui. À quel point est-ce que ce portrait vous semble tout de même proche de la réalité ?
Je pense que, enfin, si on peut dire deux mots sur le révérend Griswold, c'est un cas fascinant en fait de la littérature. Je crois que si c'était pas autoproclamé en quelque sorte un exécuteur testamentaire de Poe, on l'aurait complètement oublié parce que c'est un écrivain mineur, même s'il a publié une première anthologie de la poésie américaine. Et on a le cas d'un pathologique, d'un type maladivement jaloux.
D'un pervers peut-être.
Ah oui, oui, d'un type, alors aujourd'hui on dirait un pervers narcissique j'imagine, mais voilà, mais un type maladivement jaloux de Poe qu'il a fréquenté, qu'il a connu. Et dont il sait, je pense que c'est quelqu'un qui a compris le génie de Poe, et donc il s'est appliqué à le démolir, quoi. À la source, parce que je crois que la nécrologie qu'il signe du pseudonyme de Ludwig, il la publie 3 jours après la mort de Poe, quoi. Oui. Et ça, c'est ce qui va contribuer à la légende, parce que les amis de Poe, qui en avaient quand même quelques-uns, vont répondre dans la presse, et du coup, Griswold, au lieu de faire profil bas, etc., va surenchérir et carrément publier une espèce de biographie qui va servir de base, de passerelle pour Baudelaire d'ailleurs, hein, qui s'en inspirera complètement. Alors,
en même temps, est-ce que ça le dessert vraiment Poe? Parce que la légende du poète maudit, elle va aussi assez bien avec ses textes et elle a sans doute aidé aussi à la diffusion de ses œuvres.
Je pense qu'elle a contribué aujourd'hui, elle a contribué à ça, mais ça me... Disons que ça me... Pas que ça m'embête, ça me gêne, ça m'attriste un petit peu qu'il soit réduit à cela, parce que c'est quelqu'un, un personnage beaucoup plus compliqué que ça, et puis beaucoup plus intéressant, enfin, qui c'est pas simplement un type qui... D'abord, c'est quelqu'un qui ne supportait pas l'alcool. Voilà. Donc, il prenait 2 verres, il était malade, il était sous. Et donc, il buvait modérément, à notre connaissance. Alors, c'est très drôle, parce que, bon, je pense qu'on en touchera 2 mots tout à l'heure, mais il y a une très bonne biographie de Poe, par George Walter, publiée aux éditions Phébus.
Bah, on peut le dire tout de suite, voilà. En fait, c'est la meilleure biographie pour
ah,
vous.
Ah oui, pour moi, c'est la meilleure biographie, parce que, d'abord, c'est un... C'est
oui, il y a aussi celle d'Isabelle Ville de Georges, mais là, oui. C'est une traduction.
Voilà. C'est qui est une parce que c'est un document, c'est une œuvre littéraire aussi la biographie de George Walter. Donc. Et bon, il a un côté touchant parce qu'il veut, c'est l'inverse de Griswold, c'est un travail de réhabilitation. Et donc même quand il y a des témoignages avérés d'une ivrognerie de Poe, il va trouver une excuse pour l'atténuer. Donc c'est assez touchant ce travail de réhabilitation. Je pense que la légende le trait est un peu forcé, on va dire. Voilà. Et puis pour le reste, il y a un fondement de vrai, hein, bien entendu. C'est quelqu'un qui a tiré le diable par la queue en permanence. Il est quand même, bon, voilà, vous avez évoqué sa biographie, donc on va pas y revenir. Mais enfin, ses parents sont des comédiens. Le père a disparu, la mère meurt jeune. Il a un frère et une sœur. Ils vont être élevés tous les trois par des bonnes familles bostoniennes. Puis, s'il a une relation très forte, très affective avec sa mère adoptive, avec son père adoptif, qui va lui donner ce deuxième nom hein, de Alan, les rapports vont se tendre énormément. Et puis, c'est vraiment une malédiction, parce qu'il y a la légende du poète maudit, mais il y a aussi une malédiction qu'il a poursuivie. Il a quand même publié deux textes qui ont eu un succès énorme, le poème du corbeau. Tout le monde connaissait ce poème par cœur.
Ça n'a pas suffi à non, parce tirer que, un peu d'affaires.
Non, parce qu'il n'y avait pas parce que les droits d'auteur, ça n'existait pas. Mmh. Voilà. Les droits d'auteur, c'est bien après. Ça n'existait pas. Donc les Anglais pillaient les Américains et vice-versa.
Les Français pillaient un peu aussi les Américains, vous allez nous raconter ça. Oui. Parce que justement, c'est important dans la manière dont Poe est arrivé
en France.
Donc Baudelaire, évidemment, il est très important. Il donne cette image du poète maudit qu'il colporte un peu, il ne fait pas exprès, hein, c'est les informations qu'on lui donne. Mais il l'a peut-être aussi tiré, Poe, vers une littérature fantastique, une littérature lugubre. Or, ça n'est pas que ça, mais ça a quand même beaucoup orienté la lecture qu'on fait ici de cet écrivain, Thierry Gilibeuf.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que, grâce soit rendue à Baudelaire. Hein,
vous pensez quand même que sans Baudelaire, Poe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, y compris aux États-Unis ?
Sans Baudelaire, je suis. En France, oui, sûr. Baudelaire a été indispensable. À tel point que les deux noms sont complètement indissociables en France. Hein. Ce dont on s'est rendu compte avec Christian Garcin, c'est que contrairement à ce qui est répandu comme bruit dans le monde anglo-saxon, de nous dire Poe, c'est une langue, Baudelaire a embelli la langue de Poe, etc. Non, Baudelaire a fait une traduction rigoureusement exacte. Et il a, c'est-à-dire rigoureusement exact, à part quelques contresens ou autres comme ça qu'on a pu relever, mais bon, rigoureusement exact aussi par rapport au style de Poe. Donc il n'a pas embelli le style de Poe, il l'a embrassé, il l'a pris, il a fait ce que tout traducteur fait, il l'a traduit assez fidèlement, et donc le style de Poe est très beau, quoi. Il n'a pas été amélioré par Baudelaire. Donc ça c'est une légende urbaine qu'il faut battre en brèche. Poe est un très grand écrivain, est un très grand styliste. Ensuite, le retentissement de Poe aux États-Unis, je pense qu'il n'a pas eu besoin de Baudelaire. Quoi. Il n'a pas eu, des gens comme Lovecraft après s'en sont largement inspirés. Puis Poe marque le début aussi de la littérature américaine au XIXe siècle. Hein. Avant lui, les deux grands écrivains c'était James Fenimore Cooper et puis Washington Irving. On est dans un univers complètement différent. C'est le dernier des Mohicans, c'est Rip Van Winkle. Donc le début de la littérature américaine, c'est vraiment c'est Poe, puis ensuite c'est la génération de Melville et compagnie. Quoi.
Mmh. Et alors sur cette idée que Baudelaire en France l'a tiré du côté noir, du côté fantastique.
Je pense que ça correspondait à deux choses. Ça correspondait à cette époque de romantisme noir, un peu gothique, hein, et puis ça correspondait aussi plus personnellement au propre ressenti. Il y a une identification complète entre Baudelaire et Poe. Donc, je pense que Baudelaire l'a attiré vers ce qu'il... Enfin, c'est reconnu dedans. Et d'ailleurs, il écrit, quand il traduit Poe, il écrit à sa mère que quand il traduit certaines phrases, il a l'impression que Poe écrit exactement ce qu'il pensait.
La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, écrit Baudelaire, j'ai vu avec épouvante et ravissement non seulement des sujets rêvés par moi, mais également des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant.
Voilà.
Vous écoutez la Compagnie des auteurs et vous êtes sur France Culture. Nous parlons d'Edgar Allan Poe avec vous, Thierry Gilibeuf. Avant d'en venir à la traduction de Baudelaire elle-même et poursuivre notre conversation autour de votre traduction par rapport à la sienne, vous tenez à rappeler quand même dans votre introduction à ces nouvelles intégrales que vous faites paraître chez Phébus qu'avant Baudelaire, il y avait du monde. Et on dit que c'est Baudelaire qui a tout découvert, ça n'est pas vrai. Expliquez-nous un petit peu comment, et peut-être d'abord en commençant avec les crimes de la rue Morgue et William Wilson, qui sont en fait deux nouvelles qui ont été non pas traduites réellement avant Baudelaire, mais adaptées. Alors racontez-nous voilà, petit peu cette histoire.
Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc on y allait.
C'était le Far West.
Oui, c'était le Far West. Là, pour le coup, on faisait ce qu'on voulait. Et donc, il y a un personnage très intéressant, hein, qui est vraiment un personnage très très intéressant, qui s'appelle Doran Forgue, qui était un ami de Stendhal, qui était parfaitement bilingue et dont
c'était un ancien avocat qui avait renoncé au barreau.
Voilà, c'est ça. Et qui a carrément pompé Poe, a changé les noms de rues, les noms des personnages, mais a raconté à sa façon l'histoire de les crimes de la rue Morgue, et puis je me souviens plus,
William Wilson.
Voilà, exactement. Et il a signé ça d'un pseudonyme, Old Nick, qui veut dire qu'il y a des surnoms du diable. Donc dès le départ, la légende de Poe s'installe comme ça, ce côté un peu démoniaque. Et Doran Forgue est un personnage très intéressant parce qu'il a publié en France le premier article d'une cinquantaine de pages sur Moby Dick à sa parution. Qui est en fait la même chose, où il a écrit Moby Dick mais en 50 pages.
Alors c'est quand même une adaptation.
Ah oui, c'est une adaptation.
C'est sur 4 pages. Oui, donc voilà. Il y a quand même une espèce de réduction.
Ben oui, comme pour Moby Dick, je vous dis, il a fait un Moby Dick de 50 pages. Oui. Donc voilà.
Il doit manquer en effet quelque part.
Et oui, il manque 2-3 bricoles. Et donc c'était une pratique. Alors en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'à un moment donné, il a publié une deuxième version dans un autre magazine sous une autre signature, qu'on l'a accusé de plagier, parce qu'il avait quelques ennemis, on l'a accusé d'avoir plagié la première version. Il me dit, la première version, c'est moi qui l'ai faite, d'après un écrivain américain. Enfin bon. Et il a fallu son nom m'échappe, j'étais en train de chercher dans mes notes, mais son nom m'échappe. Il a fallu une femme qui était.
Isabella Mary Hack.
Voilà, c'est ça. Qui, elle va traduire, vraiment traduire. Elle est l'auteur des premières traductions de Poe en français. Et ce sont ces traductions, Le Chat Noir en particulier, que va lire Baudelaire. Et c'est comme ça que lui va découvrir cette œuvre. Le mérite de Baudelaire, c'est que eux, ils sont, enfin, il y en a qui ont adapté 2, 3, 4 nouvelles. Isabelle Gerlin a traduit très peu, je ne me souviens plus combien, mais vraiment une poignée. Et Baudelaire, lui, il va en traduire les deux tiers.
43 nouvelles sur 67. Et plusieurs articles. Voilà.
Donc c'est vraiment les deux tiers. Il va faire. Alors c'est pas d'ailleurs synthèse. On s'est pas posé la question de savoir pourquoi il en avait écarté certaines. Mais bon.
Mais vous avez dû vous la poser la question.
Oui, il y en a certaines. On comprend pourquoi il se les parce qu'elles sont moins pertinentes. Ou en tout cas, elles entraient moins dans son propos, je pense.
Vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut oublier d'Edgar Poe?
Oui, c'est comme tout écrivain. Hein. Il y a des nouvelles qui sont moins fortes que les autres. Hein. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment. Bon, c'est son intérêt pour le paysage fait qu'il peut donner des nouvelles qui sont restent un peu en surface, ou même ses dialogues un peu vaguement platoniciens ou miltoniens, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi.
Ouais. Alors, parmi les nouvelles qu'il faut pas oublier quand même, il y a La Chute de la Maison Usher. Ouais. Je vous propose d'en écouter un extrait dans une traduction qui évidemment n'est pas la vôtre puisqu'il s'agit d'une archive de 1969.
Je regardais ce tableau placé devant moi. Et rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, les murs qui avaient froid, les fenêtres semblables à des yeux distraits, quelques bouquets de joncs vigoureux, quelques troncs d'arbres blancs et dépéris, J'éprouvais cet entier affaissement d'âme qui, parmi les sensations terrestres, ne peut se mieux comparer qu'à l'arrière-rêverie du mangeur d'opium, à son navrant retour à la vie journalière, à l'horrible et lente retraite du voile. C'était une glace au cœur, un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse de penser qu'aucun aiguillon de l'imagination ne pouvait raviver ni pousser au grand. Qu'était donc ? Je m'arrêtais pour y penser. Qu'était donc ce je ne sais quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la maison Huchère ?
Quoi pensez-vous, Thierry Gilibeuf, à l'écoute de cet extrait lu par Roger Coggio ?
Je pense que ça colle parfaitement à la représentation qu'on se fait d'emblée de Edgar Allan Poe. Mmh. On imagine une maison un peu en ruine, un peu mystérieuse, nabée dans le brouillard, une atmosphère un peu humide, l'obscurité.
Vous dites ça avec un petit air, un petit peu de dégoût ou pas ?
Non, pas du tout. Non, c'est parce que...
Comme si c'était un cliché.
En tout cas, c'est la thématique de cette nouvelle, hein, qui renvoie à certaines obsessions de Poe, qui le ramène à sa propre existence. Je pense qu'on aura l'occasion de le développer. C'est que justement l'idée pour nous était, enfin, c'est même pas l'idée, c'était la découverte, c'est de voir que un Poe que l'on imaginait quand on a commencé avec Christian Garcin, parce qu'on les a lus adolescents, puis on les a relus, un Poe qu'on imaginait, voilà, comme ce maître du gothique noir, c'était assez réducteur en fait comme image, quoi. Mmh. C'était vraiment très réducteur, quoi.
Qu'est-ce qu'il faut lui ajouter alors ?
Pour nous, c'est un maître du grotesque. Voilà. C'est vraiment, ça a été la découverte qu'on a faite quand on a traduit. C'est un maître du grotesque.
C'est quoi le grotesque pour...
Eh bien, c'est un pasticheur. C'est un type que c'est un écrivain vraiment assez surdoué, et c'est quelqu'un qui est très très inscrit dans son époque. Donc, on a fait un appareil de notes assez fourni qui n'empêche pas toutes les lectures que l'on veut faire de Poe, mais qui en propose une supplémentaire, qui est celle d'une contextualisation. Et on se rend compte qu'il y a énormément de charges contre les hommes politiques de son époque, contre les autres écrivains. Il n'avait que des ennemis pratiquement dans le monde littéraire parce qu'il était sans doute
très radical.
Oui, puis c'était au niveau de la critique, c'était une plume excessivement féroce. Hein, donc un peu moins avec les dames d'ailleurs, mais bon, c'était son côté cœur d'artichaut. Et donc c'est quelqu'un qui tourne vraiment en dérision. Et puis que si on prend l'histoire du canard au ballon par exemple, qui a été l'un de ses grands succès, c'est presque 100 ans avant, il fait le coup de Orson Welles avec l'invasion des Martiens. C'est-à-dire que
cette histoire.
Eh bien, il a annoncé qu'on avait traversé l'océan Atlantique en ballon. C'était annoncé dans le journal. C'était une farce, hein, ce truc-là. Et les gens se sont précipités dans le port de New York pour pouvoir arriver ce ballon qui évidemment n'est jamais arrivé, quoi. C'est-à-dire que c'est exactement ce que fera Orson Welles quand il annoncera l'invasion des extraterrestres à la radio. Donc il y a ce sens de la farce. Je suis pas certain que ça ait été un joyeux de riz lui-même, mais il avait sur son époque et puis comme c'était quelqu'un qui était un peu un déclassé aussi sur son époque et sur les grands de son monde, que ce soit les hommes politiques ou les hommes de lettres, un regard excessivement vachard, quoi.
Mais oui, parce que on le lit comme étant un écrivain totalement atemporel, oui. Parce que c'est vrai que dans ses contes, la plupart du temps, il y a assez peu de détails qui fixe le temps et qui fixe la société de l'époque. Il n'y a pas beaucoup de politique, mais en même temps, si vous nous dites que justement il y a de la politique, mais alors quelle est cette politique qu'on ne voit plus aujourd'hui parce que on est peut-être trop longtemps après et qu'on a oublié les personnages politiques qui étaient ceux de l'Amérique d'alors.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a. Je pense qu'aujourd'hui, si on faisait un texte sur la vie politique américaine contemporaine et qu'on le lisait dans 150 ans, il perdrait quand même beaucoup de sa force. Bon, je pense que Donald Trump, malheureusement, passera à la postérité, mais il y a d'autres personnages secondaires qui, aujourd'hui, occupent les premières places, qui seront complètement passés à la trappe. Pour Poe, c'est la même chose. Alors, dans ce cas-là, si son œuvre n'était que contextuelle et que ancrée dans sa contemporanéité, ça n'aurait, enfin, on l'aurait oublié, comme nombre de ses contemporains, justement. Mais il y a une autre dimension. C'est-à-dire que on peut lire Poe sans savoir à quoi il fait référence. Par exemple, il s'en prend énormément aux transcendantalistes, qui était ce mouvement philosophique lancé par Emerson. Il s'en prend énormément à ça. Il appelle Boston la mare aux grenouilles, etc. Enfin bon, voilà. Et c'est plein de petites piques, mais c'est très subtil. Mais pour ses contemporains, pour les lettrés de l'époque, c'était clair comme de l'eau de roche, ou quand il faisait certaines allusions, on savait qu'il visait tel écrivain ou tel homme politique. Donc à l'époque, ça percutait. Ça, tout de suite, le lecteur savait de quoi ça parlait. On a voulu réintroduire cette dimension pour montrer justement, pour gommer un peu le côté, enfin en tout cas le remettre à son juste niveau, le côté fantastique noir, et montrer justement ce côté, cet humour un peu grinçant qu'il y a chez Poe.
Mais alors pour le comprendre, il faut aussi savoir que Poe était politisé et qu'il était très clairement républicain.
Très.
Donc aujourd'hui, il voterait sans doute pour Donald Trump.
Oui.
Et à l'époque, ça se traduit par des attaques en règle de tous les démocrates qui passent dans son viseur, en gros.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je crois que c'est ce qu'on appelait les Whigs. Donc il est vraiment dans un camp. Mais alors, vraiment. Fondamentalement républicain, lui.
Comment vous expliquez ça?
Je pense que c'est lié à ses origines virginiennes, c'est-à-dire le Sud, une des premières colonies américaines, donc c'est vraiment l'idée d'être un des pères fondateurs de l'identité américaine, et puis de continuer de l'incarner, alors que New York n'est pas encore la grande pomme.
Qui n'est pas grand-chose à l'époque, c'est plutôt Boston et Philadelphie.
Voilà, exactement. Oui, c'est New York va monter en puissance plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle, pardon. Donc, je pense que l'idée du Virginien, c'est vraiment l'auteur. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand Melville publie un texte sur Nathaniel Hawthorne, qui est une déclaration, assez nombreux textes qui sont des déclarations d'indépendance littéraire américaine et intellectuelle américaine, il le signe un Virginien, alors que Melville, lui, par contre, n'est pas du tout Virginien. C'est-à-dire comme si, pour affirmer l'identité américaine, il fallait se revendiquer de ce Sud-là, de ce Sud, et en l'occurrence de Virginie. Quoi.
Alors on peut citer Le Diable dans le Beffroi, qui vise à ridiculiser le successeur du président Johnson, alors Andrew Johnson. Il y a aussi La Nouvelle L'homme rafistolé, qui est une critique d'un autre haut responsable américain, si je ne me trompe. Il y a d'autres allusions aussi à l'époque à laquelle sont écrites ces nouvelles, mais que nous, on ne comprend pas. C'est les allusions à la vie littéraire de l'époque, Thierry Gilibeuf, que vous avez pu retrouver finalement.
Oui, on a beaucoup fouillé parce que ça nous a passionné, en fait. À partir du moment où on s'est rendu compte de ça, on a des contes que l'on pensait connaître très bien, justement, pour les avoir lus, pour les avoir relus, pour les avoir traduits. On s'est rendu compte que il y avait encore d'autres grilles de lecture, donc ça les élargit encore plus, et ça leur donne une saveur supplémentaire, une petite truculence que nous, on a particulièrement goûté, on va dire comme ça. Et donc, on a cherché à chaque fois, on s'est beaucoup posé de questions, savoir si là, il n'y avait pas une illusion masquée, s'il n'y avait pas un petit coup de pique. Et bon, quand on met ça en regard avec son travail critique, on peut reconstituer tout cela, oui.
Alors, à qui? À Carlyle, par exemple, qui est un petit peu chatouillé.
Oui, parce que Thomas Carlyle, qui est un auteur, je pense, très peu connu, enfin, on va dire. C'est un écrivain écossais qui a énormément compté dans son époque, qui est passé aux États-Unis en particulier. Enfin, son œuvre est passée aux États-Unis grâce à Emerson, et qui est l'auteur d'une œuvre assez surprenante et assez inclassable, qui a beaucoup influencé Nietzsche. Oui, je pense qu'il y avait chez Poe une forme de jalousie, parce qu'il, en tout cas inconsciente au moins, mais parce qu'il souffrait d'un manque de reconnaissance.
La la compagnie des auteurs sur France Culture. Alors sur la porosité entre l'œuvre de Poe et son époque, il y a aussi, vous l'avez un tout petit peu évoqué Thierry Gilibeuf à l'instant, le fait que il récupère quand même un peu des modes littéraires de l'époque. Lui non plus, il n'a pas tout inventé. Hein.
Non.
Et notamment le gothique anglais. Alors, il est évidemment très influencé par la littérature anglaise. Sa biographie l'explique d'ailleurs un petit peu. Et finalement, on voit bien à travers cette porosité à la mode que lui aussi, il a envie d'avoir du succès. Il cherche à vendre le plus possible, et on le comprend d'ailleurs, c'est bien normal. Ça n'est pas forcément l'écrivain comme ça, retiré et qui travaille son art de façon totalement désintéressée, ce qui est encore une fois bien normal.
Non, c'est pas. Bah, il faut vivre. Hein. Alors, c'est... Donc il était astrant, même contingence que nous. Donc il fallait gagner sa plume. Et puis il s'est marié assez jeune avec une cousine encore beaucoup plus jeune. Enfin, oui. Je pense que vous avez dû évoquer cela. Et donc il avait 13 ans et il avait sa cousine, sa femme et puis sa belle-mère à charge. Donc il fallait qu'il ramène un peu d'argent à chaque fois. Et c'était pour lui les finances de Poe, c'est les tonneaux des Danaïdes. Donc il courait le cachet. Donc il a essayé de publier ses premiers livres. Il les a fait financer quand il était à l'académie de... Oh, j'ai un trou de mémoire. Bon, enfin, c'était une académie militaire. Il a fait financer par ses...
West Point,
voilà. Il a fait financer par ses collègues ses plaquettes de poèmes qui, eux, pensaient qu'ils allaient y trouver justement ces poèmes un peu potaches qui visaient les officiers de l'académie. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il écrivait une poésie... la poésie que l'on connaît, que Mallarmé a traduite. Donc il a...
C'est le problème aussi de Poe, pardonnez-moi, c'est qu'il est toujours très au-dessus du niveau populaire.
Oui.
Et il y a eu ce directeur du journal Le New York Mirror qui disait il est tellement au-dessus du niveau populaire qu'on ne peut pas imaginer qu'il soit bien payé.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est quand même assez surprenant comme logique. Hein. Non, il était vraiment mal payé. Il fallait qu'il fasse de la copie. Il rêvait d'avoir son propre journal. Je pense que là, il aurait eu les coups des franches. Donc, il s'est vraiment... Il s'est battu comme un diable. Et en effet, il y a les sujets à la mode. Il y a donc ce qu'on appelle le mesmérisme, c'est-à-dire, bon, on va dire vaguement le magnétisme, comme ça. Il y a les tables tournantes, toutes les histoires de... Il est très au fait des couvertes scientifiques. Il va s'approprier toutes ces modes. Parfois, pour essayer de faire quelque chose des œuvres qui sont plus noires, plus denses, plus on va dire plus sérieuses entre guillemets, et puis sinon pour les tourner en dérision, il va assez souvent se moquer des livres à la mode, hein, et dont il va railler les thématiques et même la trame, quoi.
Thierry Gilibeuf, vous restez avec nous, on va continuer évidemment de parler avec vous d'Edgar Allan Poe.